Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux. Grande Flore Café. Hugues Robert.
Bienvenue au Grande Flore Café. On continue notre cycle édition contemporaine que l'on fait maintenant depuis quelques semaines. Et on a la joie d'accueillir ce soir Nathalie Sbéro des éditions Rivage. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Ça me fait très plaisir que tu aies accepté de venir. Alors bon, voilà, tu es la première représentante d'une grosse maison d'édition, il faut bien le dire. Tes six prédécesseurs ou prédécesseuses étaient de maisons, disons, petites ou moyennes. Et on en parlera tout à l'heure, surtout des maisons qui sont composées de 1, 2, 3 éditeurs ou éditrices grand maximum, donc très personnalisées. Et donc j'étais très intéressé d'avoir effectivement quelqu'un qui, tout en incarnant de la littérature étrangère avec une grande force chez Rivage, est aussi dans une maison beaucoup plus importante qui elle-même appartient maintenant à un groupe en plus au-dessus de la maison proprement dite. Donc voilà, et donc je suis très intéressé de savoir comment tu es tombé dans l'édition, parce qu'on tombe dans l'édition.
Alors en fait c'est un peu particulier, moi j'ai très longtemps, de mes 3 à mes 21 ans, j'ai voulu être prof. C'était pour moi, il y avait une certitude absolue, j'ai d'abord voulu être institutrice quand j'étais à l'école primaire et ensuite j'ai voulu être prof de français. Donc j'ai vécu toute ma scolarité comme ça, dans une espèce de joie, sachant très bien ce que j'allais faire. Et puis à 21 ans j'ai fait une espèce de crise et je me suis rendu compte que finalement c'était peut-être pas tant l'enseignement et la pédagogie qui m'intéressaient que la littérature. Donc j'étais un petit peu perdue, ça n'a pas duré longtemps, je suis quelqu'un d'assez, j'aime pas être perdu, donc ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait un stage dans l'édition, j'allais dire par hasard parce qu'une de mes amies a fait un stage, mais pas, évidemment pas par hasard. Je pense que le fait que cette amie ait fait ce stage, ça m'a donné plutôt l'impression que c'était accessible. Elle venait pas d'une grande famille, elle n'était pas pistonnée, donc je me suis dit peut-être que moi aussi je peux faire ce stage. Je l'ai fait chez Flammarion, en beau livre pour tout te dire, c'était vraiment pas la littérature, c'était un peu par hasard parce que c'est tout ce qui était disponible. Et puis j'ai adoré ça, j'ai rencontré une éditrice avec laquelle je suis toujours amie, qui s'appelle Nathalie Desmoulins, qui est écrivaine aussi. Et voilà, elle a été avec quelques personnes comme ça, Alexandrine Duin, qui est aujourd'hui chez Fayard, un peu les personnes qui te font confiance, qui te... Voilà. Et du coup, j'ai voulu devenir éditrice. Et c'était pas évident parce que, voilà, comme je l'ai dit, je viens pas du tout d'un milieu où la culture était au centre des choses. Il y avait des livres, mais c'était pas... je veux dire, l'idée d'en faire son métier, ça n'avait pas... J'allais dire presque pas de sens, en tout cas. Ma mère ne s'y veut pas du tout opposer, au contraire, mais ça ne faisait pas partie du plan, quoi. Donc, et j'avoue que j'ai eu une mère formidable qui m'a toujours encouragée à faire absolument ce que je voulais. Donc c'était un risque, parce que je viens d'un milieu social où j'avais besoin de travailler, et vite. Mais elle m'a suivie dans ce risque, et puis voilà, j'ai commencé par faire des stages. J'ai fait ensuite un DESS d'édition à Villetaneuse, sans doute pour me rassurer et pour rassurer ma maman. Et puis j'ai trouvé du travail, j'ai eu la chance, parce que c'est beaucoup ça ce métier, il faut être compétent et tout, et puis savoir un peu de quoi on parle, mais la chance c'est déterminant. Et j'ai donc fait un stage chez Vertical, aux éditions Vertical, avec Jeanne Guyon, Yves Pagès et Bernard Wallet. Il se trouve que Jeanne Guyon est tombée enceinte et que du coup, ils m'ont proposé de la remplacer pendant son congé maternité. Donc pendant les premières années de ma carrière, j'étais un peu l'ombre derrière les femmes enceintes. Et puis après, ensuite Bernard Wallet, je l'ai su des années après, mais m'a recommandé à Olivier Cohen, donc le patron des éditions de l'Olivier. Voilà, j'ai passé presque 10 ans dans cette maison où j'ai fait tout. Je veux dire, j'ai commencé responsable des post-it et j'ai terminé responsable de la littérature étrangère. Donc j'ai vraiment un parcours. J'ai à la fois eu de la chance et les choses se sont passées au fond relativement vite, mais j'ai vraiment passé les étapes les unes après les autres. J'ai appris vraiment dans le cambouis, si je puis dire. J'ai la sensation, voilà, moi j'ai fait une formation littéraire, j'ai fait des études de lettres modernes, j'avais commencé une thèse sur Henri Calais que je n'ai jamais terminée, car j'ai trouvé du travail à vous. Donc je dirais que l'édition est arrivée à la fois par hasard, parce que je n'avais pas envisagé tellement cette carrière. Et en même temps, voilà, dès que je suis tombée dedans, tu employais ce mot qui est très juste, j'ai voulu tout de suite que ce soit ma vie, quoi. Parce que c'est plus que juste un métier. C'est vraiment, c'est un peu bête comme mot, mais enfin, c'est vraiment une passion, c'est vraiment... Et ça nécessite beaucoup de détermination et... et de foi, quelque part.
Alors, en revanche, tu disais, j'en avais évidemment aucune idée, donc que ta thèse, donc, au bout de laquelle tu n'es pas allé, mais portait sur Henri Calais.
Oui.
Donc, en fait, c'était un ancrage dans tout ce qu'il y a de plus littérature française.
Tout à fait.
Et donc, comment est venue alors, l'envie, la vocation dans la vocation de te consacrer à la littérature étrangère et notamment, enfin, me semble-t-il, à la littérature anglo-saxonne.
Tout à fait. En fait, c'est venu dès la Sorbonne. J'ai eu envie de faire un diplôme, j'allais dire, sur mesure. Donc, en fait, j'avais des options qui étaient apparentées plutôt à des licences d'anglais, etc. C'est une fac où, en tout cas à mon époque, tu pouvais être assez libre. Donc, en fait, j'étais en lettres modernes, mais aussi en littérature comparée. J'étais un petit peu entre les deux, en fait. Et c'est vrai que c'est une faculté qui a été accueillante parce qu'ils m'ont tout à fait permis de faire ce cursus un petit peu particulier. Donc, j'ai toujours eu les deux cordes à mon arc, en quelque sorte. Et quand il s'est agi de choisir un sujet de troisième cycle, j'ai longtemps hésité, en fait, à faire un sujet sur de la littérature comparée, ou plutôt de la littérature française. Mais je suis tombée en amour, je ne peux pas le dire autrement, pour Henri Calais. Et du coup, j'ai vraiment envie de faire ça. Et puis, c'est peut-être quelque chose que j'ai un peu maintenant comme éditrice, mais j'avais à cœur, quelque part, de le réhabiliter. C'est-à-dire de Calais a été très longtemps, en tout cas dans l'université, considéré comme un mineur, parce qu'il était journaliste, ce qui n'est jamais très bon dans les universités. Aujourd'hui, ça a sans doute évolué. Mais voilà, il avait cette espèce de carte spéciale d'être à la fois journaliste, chroniqueur, écrivain. En plus, il écrivait des livres qui pouvaient s'apparenter à l'autofiction. J'ai eu envie de le réhabiliter en quelque sorte. Et puis, en maîtrise, j'avais aussi travaillé sur un sujet qui était plus littérature française. J'avais travaillé sur Flaubert. Donc, tu vois, effectivement, on n'est pas trop en Amérique ni en Angleterre. Mais bon, j'ai toujours eu cette espèce de double intérêt pour la littérature et étrangère et française. Et après, c'est un peu le hasard qui fait que, étant donné que j'ai surtout fait... Enfin, je suis devenue éditrice aux éditions de l'Olivier, qui est quand même une maison assez marquée par la littérature étrangère. En tout cas, c'est la place que moi, j'y avais, parce qu'il y a aussi de la littérature française à l'Olivier. Je crois que j'ai toujours eu cette double casquette. Et finalement, du coup, c'était pas étrange que je travaille si longtemps dans cette maison qui avait aussi une double casquette. Voilà.
Alors justement, une des choses qui me fascine, enfin parce qu'on n'a pas encore parlé sur cette antenne, c'est donc le fait que donc tu es responsable de la littérature étrangère, mais donc autour de toi, à l'intérieur de Rivage, il y a d'autres collections, d'autres éditeurs, d'autres éditrices, avec soit des territoires et des frontières bien marquées, soit des choses qui sont parfois un peu plus justement mouvantes. Comment ça se passe tout ça en fait ?
En fait, pour reprendre ce que tu disais dans l'introduction, quand tu me présentais comme une éditrice qui travaille dans une grande maison ou dans un groupe, etc., je dois dire que j'ai pas du tout cette perception des choses. Parce que moi, je vois Rivage comme une maison déjà plutôt de taille moyenne. Et même Actes Sud, qui est effectivement une maison immense, c'est une maison où on travaille vraiment d'une manière assez artisanale. C'est-à-dire que Rivage est effectivement composé de plusieurs collections historiques qui ont été fondées il y a un petit peu plus de 30 ans. Les deux premières étant la magnifique collection de François Guérif Rivage Noir et la fabuleuse collection de Lydia Diabreda, la petite bibliothèque Rivage. Ces deux collections qui sont vraiment des pôles, des phares pour nous tous. Et puis quelques années après, 3 ans après, il y a la collection de littérature étrangère qui a été fondée. Donc à chaque fois, tu as effectivement... c'est une histoire qui commence vraiment dans l'aventure de l'édition indépendante Rivage. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a gardé. Alors après, bien sûr, grande maison, une diffusion importante, etc. Mais vraiment, au quotidien, je pense qu'on travaille tous de manière très, très artisanale. On est tous impliqués sur pratiquement tous les aspects. Alors bien sûr, ça n'est pas comme un éditeur qui, j'allais dire, fonde une maison d'édition dans son bureau, etc. C'est pas ça. Ce serait mentir de dire ça. On est une équipe, on est à peu près entre 20 et 25 salariés. Mais, et c'est ce que j'aime dans ce métier d'éditeur, et dans l'édition en général, c'est quand même des métiers où on n'est pas du tout dans des grosses industries. On a vraiment gardé quelque chose de très... le cambouis, quoi. J'employais ce mot tout à l'heure, mais je pense que c'est important. C'est un métier où tu es obligé d'avoir les pieds sur terre. Donc oui, il y a vraiment cette idée d'artisanat et on y tient beaucoup. Le catalogue de Rivage Noir, aujourd'hui François Guérif ne dirige plus la collection, mais il y est toujours éditeur de très grands écrivains, c'est un goût. C'est le goût d'un homme et puis après le goût d'une équipe qu'il a recrutée. Hein. Il y a Jeanne Guyon qui aujourd'hui dirige la collection avec Valentin Bayache. Mais voilà, c'est des goûts singuliers qui s'expriment et c'est très important. Moi, je succède à une longue lignée d'éditeurs et d'éditrices qui ont aussi défendu leur goût, notamment une des plus grandes, Françoise Pasquier, qui était vraiment exceptionnelle, découvreuse d'Alice Munro, de Barbara Kingsolver, etc. Et je vois encore son goût, elle est morte depuis plus de 10 ans, même plus que ça, et son goût, je le vois encore dans le catalogue. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord, grande structure, et en même temps, au quotidien, j'ai la sensation qu'on est quand même encore dans quelque chose de très de petit. C'est à la fois individuel et collectif, puisque c'est important de voisiner, de cohabiter avec des collections aussi prestigieuses et aussi formidables que celles de François, de Lydia, etc., bien sûr. Donc j'insiste sur ça parce que c'est important, je crois. L'indépendance, ce n'est pas tant une situation économique qu'une situation vraiment éditoriale et d'éthique.
Et une manière de travailler. Donc,
une manière de travailler, vraiment. Comment on choisit les textes? Tu vois, par exemple, en littérature étrangère, beaucoup de collections, dans des maisons plus grandes, ont des scouts. Ça s'appelle des scouts, c'est-à-dire des gens qui les aident à trouver des livres. Eh bien, moi, personne ne m'aide. Je veux dire, je suis vraiment dans un exercice. C'est mes enquêtes, c'est les agents qui me proposent des livres, mais c'est vraiment mon choix, mon goût. Après, ça reste jamais un exercice à la première personne, être éditeur, parce que de toute façon, c'est une équipe. T'as pas d'équipe, tu n'as pas. Déjà, c'est une équipe entre un auteur et un éditeur. Mais en dehors de ça, si tu n'as pas le collectif, ça n'existe pas, en fait. Tu vois, ça ne marche que dans cette émulation-là. Mais j'insiste sur le fait de l'indépendance d'esprit, c'est important.
Alors, une chose également qui attire ma curiosité, c'est comment, justement, dans une maison que tu le disais, qui a une tradition et une histoire, donc déjà, voilà, que tu n'as pas créé toi, comment donc se gère le fait de ce que toi tu as envie d'y insuffler, les auteurs ou les autrices que tu découvres et que tu veux, effectivement, tu disais tout à l'heure, on en reparlera certainement à propos de certains d'entre eux, que tu veux réhabiliter ou en tout cas défendre, et puis ceux qui sont de l'héritage, les grands auteurs du catalogue, qu'est-ce qui se passe s'il y a des auteurs parmi eux que tu n'adores pas, par exemple?
Alors,
sans trahir de...
Oui, non, bien sûr, j'ai bien compris que tu ne me demandais pas la liste noire de l'ouvrage, mais en fait, c'est très simple. Être éditeur, c'est d'abord être lecteur. Donc, je pense que ta bibliothèque et la mienne, elles sont pleines de gens qui sont de différentes époques, des morts, des vivants, voilà. Et donc, pour moi, un catalogue, c'est vivant. Donc, forcément, quand tu arrives dans une maison d'édition qui a plus de 30 ans, il y a une bibliothèque qui est déjà construite. Mais pour moi, c'est en fait une chance immense. Parce que le métier d'éditeur impose tout le temps, implique tout le temps de faire dialoguer le passé, le présent. T'es tout le temps sur des plans temporels différents qui se mélangent. Donc moi, j'étais très fière et c'est aussi pour ça que j'ai accepté quand Bertrand Pi m'a proposé de diriger la collection. Parce que j'avais voulu être éditrice de littérature étrangère aussi parce que j'avais lu des Barbara Kingsolver, des Alice Munro, des David Lodge. Totalement mon idole. Donc, j'étais plus qu'heureuse de me dire, je vais devenir l'éditrice de David Lodge. Donc, c'est important, ça, le passé. Et voilà, parce que quand on est lecteur, ça joue. Voilà. Éditeur-lecteur, je ne vois pas ces fonctions comme antinomiques, finalement. Comment on fait pour harmoniser? Moi, je trouve que finalement, c'est simple, surtout que le catalogue de Rivage est quand même magnifique. Donc, il y a un ADN, à mon sens, à respecter. Ça ne veut pas dire laisser les choses dans le formol, mais ça veut dire que... et ça, c'est une chose à laquelle on peut pas faire grand-chose contre ça, mais les maisons ont un ADN. Alors, on pourrait dire, non mais de quoi tu parles, un ADN ça s'oublie, ça se change, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose chez les libraires, chez les professionnels, les journalistes, et donc par ricochet qui atteindra les lecteurs, Rivage représente quelque chose. Voilà, justement, pour toi, Rivage, c'est des auteurs que tu as aimés, etc. Donc si j'arrive avec un truc qui a rien à voir, qui est très décalé, en tant que libraire, tu vas avoir forcément une espèce de méfiance, où tu vas regarder ça en disant « Ah d'accord ». Donc moi, j'aime bien l'idée de à la fois respecter le passé et en même temps, il faut trouver les nouveaux auteurs. Mais c'est tout le temps cet exercice-là, ça fait partie du métier d'éditeur. Et même quand tu arrives dans une maison qui n'a pas 30 ans, que tu n'as pas... tu as toujours un passé, tu vois, pratiquement, sauf si tu fondes ta maison. Mais même quand tu fondes ta maison, tu t'appuies sur le travail d'autres éditeurs que tu as aimés. Tu as toujours quelque chose que tu te dis « j'ai envie d'être éditeur comme POL, j'ai envie d'être éditeur comme Nado », enfin, tu vois, ou comme Belfond, si tu veux. Tu vois, c'est pas le problème. Mais t'arrives pas dans un... La culture, c'est le principe. T'es toujours dans deux plans temporels, tout même trois. Le passé, le présent, et puis ce qui vient. Donc, moi, je le vois comme une espèce de prolongement. C'est le prolongement d'une bibliothèque. Donc, forcément, il y a un peu de tout. Et oui, je peux pas te dire qu'il y a... non pas que je veuille faire du politiquement correct, mais je peux pas dire qu'il y a des auteurs que je déteste ou... pas du tout. Les choses, elles se font très naturellement. La plupart des auteurs que j'aime et que j'aimais dans cette maison, ben voilà, j'ai racheté les droits, on les a republiés. C'est des choses qui se passent très simplement. Je trouve que j'ai pas du tout... Enfin, j'ai hérité de quelque chose d'assez magnifique quand même. Je suis chanceuse.
Alors, on va faire une brève pause musicale qui sera comme un clin d'œil justement à un de ces auteurs que tu as introduit chez Rivage, au moment de son premier roman, me semble-t-il. Hein, oui. Donc un Canadien, Sean Michaels, pour un roman qui s'appelle Les Corps Conducteurs et qui met en scène dans une espèce de thriller d'espionnage quasiment l'inventeur d'un instrument assez étonnant qui s'appelle le térémine, et on l'écoute.
Электромузыкальный инструмент Терминвокс – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
Aperçu de ce qu'est le térémine, en fait, donc qui est l'autre véritable héros des corps conducteurs, donc que je vous recommande bien entendu, un roman assez réjouissant, même si par moments certains des abîmes en fait qui s'ouvrent sous les pas de la lectrice ou le lecteur sont curieux. Comment justement s'était faite la rencontre avec ce premier roman donc d'un Canadien, alors qui avait déjà, je crois, été très reconnu donc en anglais, mais que tu as saisi finalement rapidement pour le marché français?
Oui, il a eu le Giller Prize, qui est, je ne sais pas comment, quel équivalent, mais enfin bon, c'est un grand prix de littérature au Canada. Donc c'est l'assurance pour les auteurs canadiens d'avoir une exposition médiatique et des ventes incroyables. En fait, c'est comme toujours, complètement par hasard. Il se trouve que j'ai vu un article dans la presse canadienne sur ce livre. On ne me l'avait pas envoyé, donc j'ai réclamé le livre à l'agent. Et puis quand je l'ai lu, j'ai eu, alors je précise que je ne savais pas ce qu'était le térémine. Je n'avais jamais entendu les sons étranges que vous venez d'écouter avant de lire ce livre. Et j'ai été justement, et c'est ça que j'aime dans ce métier, complètement prise par cette histoire qui a quelque chose d'un peu rocambolesque et d'un peu fou. Mais c'est presque en effet un pastiche de thriller, d'espionnage. Mais c'est surtout une très belle histoire d'amour. Et puis ce que j'aimais, c'est qu'à la fois c'est un roman historique en quelque sorte, puisque ce sont des personnages qui ont existé, mais totalement réinventés, passés sous le filtre de la fantaisie, du romanesque. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tant que ça dans la littérature anglo-saxonne, cette espèce de foi totale en la fiction. Il n'a pas peur justement, ben tu disais, pasticher le thriller, ensuite l'histoire d'amour, il y a presque un côté roman russe. Enfin, c'est un livre qui, je trouve, a un charme et une singularité absolue. Donc je suis totalement, j'étais impressionnée par ce livre. J'ai dû me battre un peu pour le publier, parce que je pense que je n'ai pas été la seule à être impressionnée à l'époque, je crois. Et du coup, voilà, je suis devenue une fine connaisseuse de térémine maintenant. Ça fait partie des joies de ce métier.
Ouais, moi, j'ai eu la chance de découvrir ça grâce à un groupe de trip-hop français, en fait, qui était l'un des très rares groupes contemporains à utiliser le térémine pour de bon. Enfin, et c'était quelque chose d'assez étonnant. On va reparler d'auteurs que tu as découverts et introduits chez Rivage. Je voulais qu'on dise un mot sur des auteurs qui sont un peu différents, mais qui sont des auteurs plus patrimoniaux, en quelque sorte. Alors, je pensais, par exemple, à des auteurs... Je n'ai pas saisi si, en fait, ils étaient hérités du catalogue Rivage ou si, en fait, c'était, comme le travail dont on va parler, évidemment, sur Bernard Malamud, des choses que tu as réintroduites, en quelque sorte. Je pensais à James Baldwin, par exemple.
Alors ça, c'est vraiment l'héritage de Rivage. C'est, je crois, François... Je ne suis pas sûre que c'est Françoise Pasquier, ou peut-être Gilles Barbedette, parce que c'est vraiment les deux grands éditeurs de la maison qui ont marqué leur empreinte, qui s'étaient emparés de ces deux premiers livres de Baldwin. En plus, c'est très intéressant en termes de carrière. Donc le premier, c'est La Conversion, qui est un roman totalement autobiographique où Baldwin parle de son enfance dans une famille très pieuse, et il a l'air d'être totalement... il est programmé pour être pasteur, en fait. Et ça parle à la fois de ses rythmes qui ont forcément une influence sur lui, une importance majeure puisque c'est l'enfance, et en même temps d'immédiatement de cette envie qu'il a de s'affranchir et de trouver vraiment sa voie et son propre destin. Le deuxième, c'est un chef-d'œuvre, honnêtement, je crois qu'on peut le dire, La Chambre de Giovanni. C'est un livre magnifique à plusieurs égards. C'est une histoire d'amour entre deux hommes qui, évidemment, est compliquée parce que l'époque est compliquée. Mais la chose que je trouve extraordinaire dans ce livre, et ça dit toute la force de Baldwin, c'est que lorsque Baldwin a écrit ce livre et qu'il l'a envoyé à son éditeur, il venait donc d'avoir un succès plutôt très satisfaisant avec La Conversion. Et l'éditeur lui dit c'est surprenant puisque ça parle d'une histoire d'amour entre deux hommes blancs. La Conversion était beaucoup plus autobiographique, se passait dans le milieu noir, etc. Et Baldwin lui a répondu, en fait, ce livre ne parle que de moi. Et c'est ce que j'adore chez Baldwin, c'est qu'il questionne l'identité, cette fameuse phrase de « I'm not your Negro », c'est « il est ni le nègre des Blancs, ni le nègre des Noirs, d'une certaine manière ». C'est vraiment ce truc d'être complètement lui tout le temps. Et je pense que c'est pour ça que sa voix résonne encore, en dehors des combats politiques qui, hélas, sont encore d'actualité, évidemment. Mais sa voix, elle résonne, à mon sens, très au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il a une œuvre incroyable de romancier, il a fait de la poésie, il est essayiste, enfin tout. Il a fait des essais politiques, des essais littéraires, cette force-là, et ces deux livres qui sont les deux premiers, donc c'est très émouvant d'assister à la... C'est parce que je balbutiement d'une œuvre, hein, mais qui est déjà pas du tout balbutiante. Il est déjà extraordinaire dans ces deux premiers textes-là. Donc moi, je savais que je les ai lus grâce à Rivage, je ne les avais pas lus en anglais, je les ai lus vraiment en français. Et dès que je suis arrivée, la première mission que j'ai eue, ça a été de repenser la collection de poche. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on fait de nouvelles maquettes, on pense une nouvelle identité graphique, mais surtout, qu'est-ce qu'on va ressortir du fond ? Et La Chambre de Giovanni et La Conversion, surtout La Chambre de Giovanni, a été dans mes préférés, donc j'ai voulu les mettre dès le début, parce que cet exercice de refaire une collection, c'est à la fois un exercice commercial, hein, c'est-à-dire les meilleures ventes, etc., bien sûr, parce qu'il faut renouer avec le lecteur, avec des choses qu'il a pu connaître ou qu'il aurait plus envie de découvrir, mais je pense que le côté la découverte, c'est important aussi. Et j'ai senti, les livres connaissait très bien ce livre et avait beaucoup de passion et d'affection pour ce livre. Donc on en a rapidement, voilà, ça a été rapidement un petit succès, quoi, cette réédition. Donc là, je ne dois rien, enfin je veux dire, je dois tout, au contraire. Je veux dire, je n'ai rien fait presque, hein. J'ai juste ouvert le paquet cadeau et vu, et parce que je le savais, qu'il y avait des trésors dans le catalogue.
Alors, un cas qui m'intrigue également, c'est parce qu'il me semble qu'il n'était pas lu au catalogue Rivage précédemment, qui est Shelby Foote. Hein.
Non, Shelby Foote n'était pas du tout au catalogue de Rivage. J'ai découvert totalement par hasard cet auteur. Pour tout dire, ça va sans doute surprendre, mais c'est sur Facebook que j'ai découvert cet auteur. C'est-à-dire qu'un jour, Léon Marc Lévy de La Cause littéraire a mis un statut sur Shelby Foote en disant « ce grand écrivain américain ». Et comme c'est quand même un peu ma spécialité, la littérature américaine, j'étais extrêmement vexée de jamais avoir entendu parler de ce monsieur. Et donc, mon orgueil étant ce qu'il est, j'ai donc commandé tous les livres de ce monsieur. J'ai donc aujourd'hui lu tous les livres de ce monsieur, forcément. Et j'ai découvert Shiloh. Bon, je crois que ça se dit Shiloh, mais je vais le dire à la française, qui est merveilleux. C'est un tout petit livre de 200 pages sur la guerre de sécession, sujet dont je ne suis absolument pas spécialiste. Mais j'ai été éblouie par ce livre, qui est une espèce d'épopée miniature. On traverse la guerre à travers 7 chapitres, mais 6 voix de soldats des deux camps. Et il y a une force incroyable dans ce texte, un lyrisme, mais en même temps, il y a un mélange de lyrisme et d'extrême précision, d'une violence incroyable de ce qu'est la guerre. Ça m'a fait penser un peu au film de Malick, La Ligne Rouge. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du lyrisme et de la violence mélangée. Et on sent une sorte d'absurdité totale de la guerre, puisqu'il y a des paysages magnifiques, le Mississippi. Tous les chapitres commencent par ça, une espèce de description de la nature. Et les hommes y apparaissent comme vraiment une forme d'anomalie, et la guerre des hommes et la violence des hommes. Donc c'est complètement par hasard. Cet auteur était au catalogue de Gallimard et de Noël, et ce texte, Shiloh, n'avait jamais été traduit. Sans doute parce que la guerre de sécession effrayait, mais je n'ai pas été effrayée, et donc j'ai décidé de le publier. Et c'est vrai que j'aime bien faire ça, j'aime bien l'idée que voilà, la nouveauté de février 2019 chez Rivage, c'était un livre de 52. J'aime bien faire ça, je trouve que ce que je disais tout à l'heure sur le parcours de lecteur, sur le fait que nos bibliothèques étaient faites d'auteurs morts et d'auteurs vivants, et de textes anciens et de textes nouveaux, ça me tient à cœur vraiment comme éditrice d'avoir une... C'est complètement cliché de dire ça, le truc de la bibliothèque idéale, mais bon, c'est quand même un peu ça. Donc ma bibliothèque idéale, elle a forcément... Il y a forcément des livres, des trouvailles, quoi.
Alors, je souscris totalement. Chilo est vraiment un très grand texte. Et au sein d'un univers de la littérature de guerre, enfin, mais qui n'en manque pas de grands textes, hein, c'est peut-être l'un des rares qui réussit à faire vivre à une lectrice ou un lecteur qui n'est pas familier du combat du 19e siècle, mais l'absurdité et le brouillard, en fait, de la guerre. C'est-à-dire le fait que ce soit les simples soldats, mais aussi les généraux, évoluent dans un univers où ils ne savent pas ce qui se passe en réalité. Et ils donnent des coups un peu au hasard. Et ça fait les grandes batailles, ça fait les guerres. C'est assez fascinant d'avoir fait ça. Et sans à aucun moment tomber dans l'essai ou le discours. C'est tout fait au ras du terrain. C'est magnifique.
L'autre truc fascinant avec ce livre, enfin avec ce monsieur, Shelby Foot, c'est qu'il était historien. Et il a écrit une somme de 3000 pages qui s'appelle The Civil War. C'est-à-dire qu'il a, ça c'est, je trouve, extrêmement moderne en fait. C'est-à-dire qu'il a cette espèce de double casquette. Il dit à la fin de Shiloh, il y a une espèce de petite note de l'auteur qui dit que tous les détails sont réels. C'est-à-dire que le temps qu'il fait, toutes les choses qu'il décrit, les mouvements guerriers, etc., tout est réel. Mais évidemment, tout le reste est fiction. Les émotions des personnages. Donc c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est un historien romancier et dans les deux domaines, il est d'une précision assez impressionnante.
Alors, Bernard Malamud, donc l'un de ces écrivains un peu mythiques, hein, qui siège dans un bout de Panthéon aux côtés de Saul Bellow et de Philippe Roth, vraisemblablement, même si je crois que Bernard Malamud n'était pas vraiment friand de qu'on le considère avant tout comme un écrivain juif. Mais en tout cas, c'est un auteur énorme qui était effectivement tombé dans une forme d'oubli, de non-reconnaissance, en tout cas en France. Et c'est une des missions que tu as prises. Et donc, tu en es à 3 romans, un recueil de nouvelles publié, et je crois que tu n'as pas l'intention de t'arrêter là.
Non, pas du tout. Il y a un nouveau recueil de nouvelles qui sort en octobre 2019, et il y en aura un par an. C'était le projet depuis le début. Donc ça, c'est une histoire, c'est le premier livre, c'est le premier auteur que j'ai signé chez Rivage. C'est dire à quel point on travaille dans une atmosphère de confiance chez Actes Sud et chez Rivage, parce que je suis arrivée, j'ai dit à Bertrand Pi, je vais acheter pratiquement toute l'œuvre d'un auteur mort. Il n'y avait aucune raison, je veux dire, il n'y avait pas de commémoration, il n'y avait pas d'anniversaire, c'est juste que je l'aimais et que j'avais en tête depuis longtemps de lui redonner sa place. Il se trouve que Rivage avait publié 2 petits livres de lui, des nouvelles, enfin honnêtement c'était pas des traductions d'une grande qualité, et je pense que ce sont des éditions qui étaient plutôt passées inaperçues. Donc c'est pas tellement parce que c'était Rivage en soi, mais c'est parce que je portais ce projet depuis longtemps et que surtout dans une maison qui repart en quelque sorte, une collection qui repart, il y avait de la place. Quand j'étais à l'Olivier, j'avais déjà juste avant, j'étais éditrice à l'Olivier, j'avais cette idée, mais c'est compliqué, l'Olivier c'est un catalogue qui est déjà très solide, donc c'est compliqué de dire chaque année il y aura un livre d'un auteur. Et du coup j'ai voulu je pense que j'ai voulu faire un peu je l'ai pas pensé comme ça consciemment, mais avec le recul je me dis que j'ai voulu faire un peu comme François Guérif avec Jim Thompson, en toute modestie, parce que évidemment je ne suis pas du tout François Guérif, mais je me suis dit pour moi quand François parle de Jim Thompson, il y a quelque chose, c'est une espèce de parrainage de la collection, c'est une sorte de sésame, c'est une manière de dire aux gens, voilà, alors lui c'est quand il a fondé la collection, mais moi c'était une manière de dire Rivage repart dans une nouvelle ère, c'est peut-être un auteur que vous connaissez, c'est un auteur qui fait partie du patrimoine, c'est une manière de dire faites-nous confiance, quoi. Et je suis très heureuse parce que c'est une entreprise éditoriale qui a énormément marché, qui a vraiment rencontré le succès, l'enthousiasme des libraires, et ça fait plaisir, voilà, parce que c'était vraiment... Et puis je parlais tout à l'heure de réhabilité Calais, et je dois dire que j'ai pour Malamud une tendresse aussi liée à ça. Il a été, tu parlais du triumvirat, c'est sûr que Saul Bellow et Philippe Roth avaient et des carrières et des personnalités qui étaient quand même assez incroyables. Donc Malamud était, il est décrit par Roth d'ailleurs dans Parlons Travail, comme un homme d'une immense drôlerie, mais enfin avec des airs d'agent d'assurance. Et j'aimais bien l'idée de prendre celui qui a la place la moins évidente sur la photo et d'essayer de le mettre en avant. Et puis aussi, toute l'œuvre de Malamud est consacrée à des vies assez minuscules, des épiciers, des cordonniers. C'est une des choses que je trouve épatante chez lui, c'est qu'il arrive à créer de la dramaturgie, à montrer à quel point le forme d'héroïsme n'est pas tout à fait dans des destins héroïques, mais davantage dans voilà. En fait, c'est bête comme formule, mais j'adore quand la littérature part de rien et qu'elle arrive à atteindre cette puissance. Et pour moi, Malamud, c'est ça. C'est-à-dire que Le Commis, c'est quand même un livre extraordinaire où on vibre des aventures d'un commis et d'un épicier. Et il n'y a pas plus pour moi, c'est une espèce de concentré de la nature humaine. Et c'est ce que j'adore chez Malamud. Et tu parlais d'étiquette d'écrivain juif, donc c'est toujours l'étiquette très compliquée. C'était même encore plus compliqué pour Philippe Roth d'être qualifié d'écrivain juif. Malamud avait un rapport avec ça, en effet, un petit peu complexe. Pour lui, le juif était plus le symbole de quelque chose que simplement le but du livre. Voilà. Il se trouve que lui, il était juif. Mais enfin, c'était que le sujet est partout, mais finalement, et c'est pour ça qu'il a eu, je crois, quand même, c'est un homme qui a eu un prix Pulitzer de National Book Award, qui a connu un succès énorme en Amérique, il a vendu des millions d'exemplaires. Donc je ne pense pas qu'il ait vendu des millions d'exemplaires aux gens intéressés à la question juive. Il y a vraiment un truc totalement universel dans les livres de Malamud, et c'est aussi ça qui me plaisait. Je pense c'était aussi de réhabiliter ça, de dire cette idée. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une époque, on a de la chance en France de ne pas avoir ça, mais tu sais, ce truc un peu, pas communautaire, mais voilà, donc les livres pour ceci, les livres pour cela. Mmh. Et moi, j'aimais bien l'idée de dire, non, on peut écrire sur un truc qui semble être une forme de particularisme total, puisqu'il parle de sa famille, enfin, quelque part. Hein. C'est jamais autobiographique, mais enfin, c'est clair que dans le commis, cet épicier, c'est complètement son père. Et en même temps, il y a quelque chose. Pour moi, le vrai sujet de Malamud, c'est pas tant le judaïsme que l'immigré. C'est l'outsider, c'est celui qui est rejeté. Et ça, c'est commun à beaucoup d'immigrés.
Enfin, c'est frappant dans Le Meilleur également.
Ah oui, tout à fait.
Un très, très beau livre. Enfin,
c'est son premier roman, Le Meilleur. Et oui, donc ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'est important de dire qu'il y a des écrivains qui... parce qu'au bout d'un moment, quand un écrivain... Ça fait partie de l'histoire littéraire, de l'injustice de l'histoire littéraire. Il avait été condamné à cette forme de particularisme. On ne parlait de lui que quand on parlait des grands écrivains juifs. Et pour moi, on doit parler de Malamud quand on parle des grands écrivains américains. Point. Il est juif, c'est très bien, mais bien sûr. Et d'ailleurs, il y a une histoire qui dit beaucoup sur ça. Quand il a voulu écrire L'Homme de Kiev, le premier projet dans sa tête, c'était d'écrire sur une injustice. C'était d'écrire sur une erreur judiciaire. Il a donc lu beaucoup sur les erreurs judiciaires et il y a plusieurs affaires qui ont semblé intéressantes pour lui. Plein d'histoires. Et tout à coup, quand il a commencé à écrire, il se trouve que c'était l'histoire d'un juif qui était arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et il dit dans son journal, je ne dirais pas qu'il le vit comme quelque chose qui est une sorte de destinée qu'il ne maîtrise pas, mais presque. Il aurait eu envie presque d'écrire sur autre chose. Et puis finalement, il a écrit sur ce qu'il connaissait. Et ça aussi, c'est une honnêteté que j'aime beaucoup. Et ce livre est très au-delà de ça. C'est un livre complètement kafkaïen. Enfin, c'est un très grand livre.
Alors, on pourrait... aisément passer plusieurs heures en fait hein, sur les auteurs du catalogue Rivage et sur leur partie littérature étrangère donc que tu animes et que tu développes. Le temps nous est un peu compté, donc j'aurais bien aimé qu'on parle en fait d'une jeune anglaise qui m'a beaucoup fasciné depuis la toute première fois où je l'ai vue sur une scène de rock en fait, parce que je savais pas du tout qu'elle écrivait. Pour moi, c'était une rappeuse, une slameuse, enfin une superbe chanteuse. Mmh. Et tout à coup, j'ai découvert que oui, avec une bonne partie de la France, je crois que c'était que c'était un de ses talents, mais pas le seul. Donc c'est Kate Tempest. Hein. Est-ce que tu nous en dirais quelques mots de cette rencontre-là?
Bien sûr. Alors Kate Tempest, elle est absolument singulière. Elle est, tu le disais, rappeuse, poétesse, dramaturge, performeuse, romancière. C'est assez rare. Elle a un peu 32 ou 33 ans. C'est une femme totalement à part. Elle a une histoire, une trajectoire assez particulière, puisqu'elle a commencé très jeune à faire des battles de rap dans son quartier de South East London. Et évidemment, elle battait à plate couture tous les garçons qui s'essayaient au slam à côté d'elle, parce qu'elle a un rythme incroyable. Elle a une musicalité, elle a une voix vraiment très impressionnante. Avoir une voix, c'est plutôt un bon début pour un écrivain. Donc en fait, elle écrivait comme ça. Elle a été repérée tout de suite. Elle a commencé à faire pas mal de tournées. Elle était au départ vraiment une sorte d'artiste underground, si ce terme a un sens. Mais... Et puis, elle a écrit de la poésie. Et puis, elle a commencé à vraiment exploser. Quoi. Elle a vendu très bien son premier recueil de poésie en Angleterre. Là-bas, ils ont une vraie tradition de la poésie. Mais quand même, c'est pas seulement parce que les Anglais aiment encore la poésie. C'est elle qui a une personnalité telle que tout à coup, ils se retrouvaient à vendre 30 000 exemplaires d'un recueil de poésie. Même chez eux, c'est quand même quelque chose de rare. Donc, elle est absolument à part. Je dois dire que c'est un des rares... J'aime les auteurs que je publie, sinon on ne fait pas ce métier. Mais avec elle, c'est un peu différent. Je suis fan. Donc je suis presque un peu béate d'admiration. Et je l'ai découvert d'une manière parfaitement banal. Un agent m'a envoyé un texte. J'avais jamais lu ça. Je me suis dit, mais cette voix-là, c'est incroyable. J'ai tapé 4 tempêtes sur YouTube. J'ai trouvé des vidéos où j'avais jamais vu ça non plus. Et je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment une expérience, quoi. Elle a quelque chose d'incroyable. Et puis voilà. Et puis après, j'ai publié le roman. En fait, il y a un long moment qui s'est passé entre l'instant où j'ai découvert le texte et puis le moment où je l'ai publié en 2018. J'ai acheté le texte en 2013 ou 2014. Donc, il a fallu un certain temps. Elle a complètement refait le livre, finalement. Donc, ça, c'est assez drôle aussi. Et puis, quand le livre est apparu en France en janvier 2018, elle avait déjà nommé pour son second album au Prix Mercury. Donc, voilà. Elle est fabuleuse. Je ne peux pas dire autre chose. C'est une espèce de mélange. Elle a dans la voix, dans son écriture, Public Enemy, Shakespeare. Il y a tout. C'est une espèce de j'allais dire presque monstrueux. Mais elle a quelque chose d'un peu fou, comme ça, d'épatant. C'est un mélange de plein d'inspirations. Et en plus, elle a quelque chose que j'adore, c'est qu'elle retrouve une espèce de sens physique de la littérature. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Tous les textes sont très travaillés, mais on s'en fiche en réalité. C'est-à-dire, quand on l'entend, il y a quelque chose de l'ordre de la... Oui, c'est comme on dit en anglais, c'est from the guts, quoi. Ça veut dire ça vient des entrailles. Il y a quelque chose de tellement incroyablement poignant. Et j'aime ça, j'aime qu'elle ait dans l'idée que la littérature, c'est certes à la fois fiction, construction intellectuelle, ça mélange de tout ça, mais il y a un truc physique. Elle est très physique. On dirait qu'elle boxe quand elle dit ses textes. Et ça, j'aime bien qu'on retrouve cette espèce d'essence basique, quoi. Et lire un livre, c'est quand même ça. Il y a un truc un peu physique. On l'aime, on l'aime pas. Il y a quelque chose de... Et après, on fait des phrases pour expliquer. Mais il y a quelque chose d'un petit peu comme ça, inné. Donc, elle a ce truc-là.
Donc, en effet, si ce n'est pas déjà fait, précipitez-vous, lisez Kate Tempest. Ça vaut vraiment plus qu'un détour. C'est une des choses les plus magnifiques qui soit effectivement apparue ces dernières années. Je le confirme totalement de mon petit point de vue.
Merci.
Alors, peut-être pour... Pour finir, parce que voilà, on approche de la fin de notre émission, j'aurais bien aimé que tu nous parles. Alors, moi, un phénomène qui me fascine, c'est que on a évoqué tout à l'heure ces questions de collection, de genre, donc de délimitation, que ce soit dans les librairies, que ce soit dans les maisons d'édition. Mais les autrices ou les auteurs ont leur parcours propre, hein, et eux peuvent tout à fait choisir, ou simplement ça se produit, sans que ce soit un choix, mais d'avoir une trajectoire qui en fait commence à franchir en fait des frontières entre des genres. Et je prenais le cas d'Emily St. John Mandel, une jeune Canadienne également, qui a commencé en tout cas en anglais comme ensuite en français, par écrire 3 romans, certes des romans noirs, des romans policiers, mais déjà très bizarres, très particuliers, avec, tu parlais de voix à propos de Kate Tempest, je pense qu'on peut dire dès ces romans-là qu'il y a une voix, Emily St. John Mandel, sans aucun doute, mais dont le 4e roman n'est plus un roman policier, même s'il reste de la noirceur, mais c'est quelque chose de différent. Et donc, il y a un de ces phénomènes qui est assez rare à ce moment-là, c'est que l'autrice mute, en fait, de collection à l'intérieur de l'éditeur. Est-ce que tu peux nous parler un peu d'Emily St. John Mandel et de cette aventure éditoriale-là?
Alors, en fait, Emily St. John Mandel, je ne suis pas son éditrice. Son éditeur, c'est François Guérif, le fondateur de la collection Rivage Noir. Et quand je parlais tout à l'heure de voix, en fait, c'est souvent... François dit ça. Il dit un auteur, c'est une voix. Quand on lui dit c'est quoi les qualités d'un auteur de polar, il dit un auteur, c'est une voix. Et puis, c'est tout. Je veux dire que... Ce qui est assez formidable avec la collection que François a créée, c'est ça, c'est une absolue singularité. Et Émilie, elle rentre parfaitement dans cette ligne éditoriale d'avoir une voix et d'être parfaitement singulière, déjà quand elle écrivait des livres qui... en théorie s'apparentait davantage au genre. François a été un de ceux qui ont déjà donné au genre ses lettres de noblesse littéraire. Quand on a lu James Ellroy, on ne peut plus jamais dire noir ou pas noir, Giron sans fils. Pour moi, James Ellroy, c'est l'héritier de Dostoïevski, quoi. On se fiche qu'il paraisse là ou là. Après, il se trouve que c'est lui qui a fondé cette collection, que le noir est sa spécialité et sa religion, mais c'est presque ça. Donc il se trouve qu'il a découvert Émilie et que naturellement elle a été publiée dans sa collection. Pour Station Eleven, en fait, on s'est posé un débat interne parce que, en effet, ce n'est pas un livre qui est un noir, qui ne joue pas du tout avec ses codes, mais davantage un livre qui joue avec les codes de la SF ou de la post-apocalypse. Livre qui, dans les territoires anglo-saxons, était plutôt paru dans des collections hors genre. Donc c'était le débat. Je ne sais pas si on a tranché le débat comme il faut, mais en tout cas, on s'est dit à ce moment-là que peut-être la mettre dans une collection dite générale, ça allait permettre de trouver un public plus large. Maintenant, vous sentez que j'emploie des conditionnels, etc., parce que je ne suis pas si certaine que ça de cette espèce de... C'est une tendance du moment de dire sortons les livres des collections. Ça veut dire quoi ? Moi, je trouve que déjà, quand on dit ça, tout de suite, on se dit, est-ce qu'il y aurait un mépris pour les collections ? Vous savez, cette fameuse expression, c'est plus que du noir. Je veux dire, c'est ridicule de dire ça. C'est plus que du noir. Mais le vrai noir, mais c'est déjà... On parle de littérature, là, déjà. Généralement, Chet, c'est un auteur de noir. Je pense que c'est un plus grand écrivain que plein d'auteurs qui paraissent dans des collections en littérature générale.
Les expressions générale. Les plus agaçantes qu'on imagine, c'est plus que de la science-fiction.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est très énervant. Damasio, c'est un grand écrivain, point. Il se trouve qu'il a choisi la SF, mais c'est pas tant... Moi, ce que j'aime pas, c'est que dès qu'on dit genre, en fait, on parle de sous-genre. Puisque finalement, la littérature générale, honnêtement, et surtout au tenté, on est en 2019, aujourd'hui, faire de la littérature, de la vraie, c'est difficile. On est déjà dans un sous-genre, en fait. C'est ça qu'on devrait se dire. On est tous les éditeurs qui dirigent des collections, etc., on est déjà en soi dans une forme de sous-genre. Donc voilà, pour moi, c'est compliqué, cette affaire de... Moi, vraiment, Elroy, pour moi, c'est un changement, quoi. C'est-à-dire, j'ai découvert Elroy, ça m'a... je sais pas, époustouflé. Tous les mots n'ont aucun sens. Mais quand j'ai lu Elroy, c'était incroyable. Et pour moi, cet auteur est... et je me fiche complètement qu'il paraisse dans une collection ceci ou cela. Après, c'est mon métier d'éditrice. Et on se dit, tiens, alors on les met où et tout. Mais en vérité, voilà, ce que François a créé, c'est une collection de littérature. Bon, il se trouve qu'elle est noire. Mais pour moi, c'est pas un détail. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est quand même, c'est compliqué, ces questions-là. Donc pour moi, il y a de la bonne littérature et de la mauvaise. Et il se trouve que... Donc Émilie, justement, elle est intéressante parce qu'elle utilise toujours, et même dans Station Eleven, au fond, le roman post-apocalyptique, qui est un genre en soi, elle l'utilise, mais elle le transforme totalement. Et pour moi, c'est un peu comme si Station Eleven était un peu l'envers de La route de Cormac McCarthy, qui est un livre que j'aime énormément. Quand je dis l'envers, ça ne veut pas dire l'envers en termes de qualité, hein. Au contraire. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire post-apocalyptique, mais on a deux auteurs qui, chacun avec leurs âmes, vont faire totalement autre chose. L'un qui est presque à la limite de la poésie beckettienne, c'est-à-dire Cormac McCarthy, et Emily St. John Noël qui, elle, fait de la post-apocalypse un roman solaire, un roman où il y a profondément un espoir, puisque les gens qui survivent à une grippe, une épidémie qui ravage la planète, sont maintenus et par le souvenir et par l'art. Ils se lisent Shakespeare, ils jouent de la musique, et je trouve que c'est ça ce qu'il y a de génial dans ce livre, c'est qu'elle a réussi, et il fallait quand même être sacrément culottée pour le faire, et talentueuse. C'est un genre dont elle a extirpé la lumière, quoi. C'est terrible de dire l'humanité. Eh bien, elle a extirpé la lumière et la lumière passe par l'art. Mais elle l'a fait par un billet, au fond, j'allais dire, très populaire, cette post-apocalypse, etc. On le voit partout. Et c'est un genre qui, pour elle, est profondément fondateur, je pense, comme lectrice. Et elle a eu ce génie. Voilà. Donc après, dans quelle collection elle paraît, voilà. François Guéry fait son éditeur et puis c'est tout. Et après, ce qui compte, c'est qu'on se dit qu'elle trouve le plus de lecteurs possible. Mais je pense que son prochain livre va paraître en Rivage Noir. Donc c'était pas une... Il ne s'agissait pas, enfin, je ne veux pas qu'on le prenne comme tout à coup on acquiert une espèce de noblesse. On est déjà dans une grande noblesse quand on est publié par Rivage Noir.
C'est clair. Je pense que tu parlais beaucoup de James Ellroy. Je pense que, j'aurais probablement spontanément cité quelqu'un qui s'en est inspiré au début, qui est David Peace.
Bien sûr, je pourrais parler de Rivage Noir. Je suis une grande fan. Donc Peace, ouais. Westlake, il y a tout le monde. Il y a Robin Cook.
C'est extraordinaire.
C'est un catalogue, mais incroyable. Donc moi, je veux bien entendre. C'est pour ça que ça m'énerve, le « c'est plus que du noir ». Parce que là, on parle du noir, enfin, on parle de la très grande littérature. Et après, moi, ça ne m'intéresse pas, finalement, l'étiquette au sens strict. Pour moi, la seule étiquette valable, c'est de la très grande littérature. Et c'est une des collections les plus belles, les plus inspirantes. Voilà, je pense que c'est un modèle, dans tous les sens du terme. Arriver à avoir et cette éthique et cette variété. Parce que ça, c'est important, j'y tiens à ça. Parce que je pense que comme lectrice de Rivage Noir, j'y tiens à cette histoire de la variété. Rivage Noir n'est pas une collection qui s'est répétée. C'est plus de 1000 numéros et elle continue, bien sûr, de très belle façon. Et la force de François comme éditeur, c'est ça. C'est un éclectisme, la singularité, et puis une forme d'éthique, de croyance, de foi. Je suis désolée, j'ai l'air complètement habitée. Mais il y a quand même un truc qui est de cet ordre-là. Et lui, il a ça à fond.
Merci beaucoup Nathalie. En tout cas, vous qui nous écoutez, lisez Bernard Malamud, lisez Jim Kress, lisez Kate Tempest, lisez David Lodge, lisez Shelby Foote, lisez Vivian Gornick, lisez James Baldwin, bien entendu, lisez Willa Cather, lisez Owen Shears, lisez John Smiley, lisez Millicent John Mandel, dont on parlait à l'instant, lisez Elizabeth Hoover, lisez Shawn Michaels, lisez-en bien d'autres. Ils sont faciles à reconnaître. Il y a effectivement un design depuis quelques années donc, dans la collection Rivage Littérature étrangère qui est très caractéristique. Ce sont des grands textes très différents et très éclectiques. Il y a probablement quelque chose là-dedans qui bouillonne en commun. Mais en tout cas, merci beaucoup Nathalie de nous avoir donné ces éclairages en fait, sur la constitution d'un catalogue alors qu'il y a un poids de l'histoire pour le meilleur qui est déjà là. Merci beaucoup à toi.
Merci.
Turn the page on the day, walk away. Cause there's sense in what I say. I'm 45th generation Roman, but I don't know 'em or care when I'm spitting. So return to your sitting position and listen, it's fitting. And I'm miles ahead and they chase me. Show your face on TV, then we'll see. You can't do half, my crew laughs at your rhubarb and custard verses. You rain down curses, but I'm waving your hearses driving by. Streets riding high with the beats in the sky. All stare, eyes glazed, garage burned down, the fire raged. For 40 days and in 40 ways. But through the blaze they see it fade. The sea of black, the beaming heat on their faces. Then a figure emerges from the wastage. Eyes transfixed with a piercing gaze. One hand clutching his sword raised to the sky. They wonder how, they wonder why. The sky turns white, it all becomes clear. They felt lifted from their fears. They shed tears in the light after six dark years. Young bold soldiers. The fire burns, cracks and smoulders. 5 years older and wiser. The fires are burning on fire, never tire. Slay warriors in the forests and on higher. We sing, hear the strings rising. The war's over, the bells ring. Memories fading, soldiers slaying. Looks like geezers raving. The hazy fog over the ball ring. The lazy ways the birds sing. A new baby's born every day. Few men may be scorned today, but look at things the other way, cause it may well be your final day. And then the crowds roar, they slay, they all say. I produce this using only my bare wit. Give me a jungle, a garage beat, and admit defeat. Use war and past injury as my metaphor and simile. Get all applications into me before the deadline. Cause it's a fine line between strife for crimes and a life for crime. But you will reach the day, and it's all mine. You can take it or leave it. I shake and reveal stage tricks like Jimi Hendrix. In the afterlife, gladiators meet their maker. Float through the wheat fields and lakes of blue water. To the next life from the fortress. Away from the knives and slaughter. To their wives and daughters. Once more before the Lord judges over all of us. It's in this place you'll see me. Brace yourself, cause this goes deep. I'll show you the secrets, the sky and the birds. Actions speak louder than words. Stand by me, my apprentice. Be brave. Clench fists.